se passe-t-il dans mon quartier ? Chaque année, à Reims, les associations, les institutions mettent en place de nombreuses actions. Parfois, vous y participez, sans trop le savoir finalement. Parfois, vous êtes un bénévole actif. Et parfois, malheureusement, vous ne les connaissez même pas. Que se passe-t-il dans mon quartier ? Est une série radiophonique de 6 émissions qui vous fait découvrir des projets qui ont eu lieu durant l'année 2020 à Reims. Aujourd'hui, épisode 3. Le projet Acti Senior, le projet Hervy et les concerts de poche. Au Châtillon, il y a une maison de quartier. Ce n'est sans doute pas la plus jolie de Reims, mais pour ses bénévoles, elle est un lieu d'accueil, d'activité et de partage. Le projet Acti Senior y est né. Nous nous y sommes rendus au printemps, juste après le premier confinement. Un confinement qui n'a nullement altéré les liens entre ces bénévoles seniors enthousiastes.
Bonjour, donc je suis Laetitia Vigneault, la coordinatrice de la maison de quartier Châtillon. Donc, ma mission principale, c'est de coordonner et de gérer l'ensemble des projets qui sont développés dans cette structure, mais aussi d'impulser de nouveaux projets en fonction des attentes et des besoins des habitants du quartier des Châtillons. Donc on est aujourd'hui le vendredi 3 juillet 2020 et on est à la maison de quartier Châtillon avec trois personnes qui participent activement depuis la mise en place du projet Acti Senior aux actions qui sont proposées dans le cadre de ce projet à destination des personnes de plus de 60 ans. Donc on a avec nous Nicole,
Mitzi et Gigi.
Voilà. Donc en fait ce projet Acti Senior est né en 2015. À la base, grâce à un financement de la part de la CARSAT qu'on a reçu à titre exceptionnel sur la première année de fonctionnement. Et donc, étant donné que ça correspondait à un besoin du territoire, notamment du fait du vieillissement de la population, on a développé un panel d'activités en direction des seniors. Donc, on propose encore aujourd'hui presque la totalité des activités que l'année d'impulsion, en fait, même que lorsqu'on a lancé le projet. Au bout de 2 ans, le financement CARSAT s'est arrêté et donc on était un peu perdu, notamment on ne savait pas du tout comment continuer les actions sans financement. Et la ville de Reims a pris le relais, en fait, sur du contrat ville. Et donc, à ce jour, cette action est financée par le contrat ville, donc par la ville de Reims et par le département. Dans le cadre de ce projet, on développe plusieurs activités, des activités autour des pratiques culinaires, un atelier cuisine chaque semaine. C'est des activités hebdomadaires. Donc il y a un atelier cuisine tous les mardis matins où les gens, à l'issue de l'atelier, déjeunent ensemble. Et c'est un peu ouvert, notamment avec l'équipe de la maison de quartier. On vient manger avec eux, partager le repas. Il y a un atelier informatique. Pareil, une fois par semaine, il y a de la marche, il y a des activités gymnastiques douces, renforcement musculaire. On avait lancé la couture, mais ça a du mal à prendre. Et en fait, l'idée, au-delà des activités un peu de consommation, plaisir-loisir, nous, l'idée principale, c'est de garder un lien privilégié avec les habitants seniors du quartier, de promouvoir le lien social et de renforcer, en fait, les échanges et surtout de lutter contre la solitude. C'est au-delà de ça aussi de repérer s'il y a des difficultés et d'orienter vers les services compétents. Notamment, on est en lien quand même régulièrement avec le CLIC quand il y a des problèmes identifiés. On est vraiment dans cet esprit-là, en fait. L'activité, oui, elle est primordiale, mais nous, parce qu'en fait, le groupe se suffit à lui-même, elles n'ont pas besoin de nous. Nous, notre travail, c'est vraiment de créer la rencontre et puis de repérer les difficultés s'il y en a. C'est un projet dans lequel au début on croyait sans y croire parce que c'était un public qu'on ne touchait pas, hein, ou vraiment très occasionnellement sur de l'accueil vraiment éphémère. Et donc on s'est dit, bon, bah, quelle cohabitation avec les projets jeunesse, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que les gens vont trouver leur place dans la structure. Et en fait, ça s'est fait très naturellement. Très naturellement, et maintenant on va dire que tout le monde cohabite très bien, il y a vraiment des échanges intergénérationnels riches. Et tous les gens qui participent aux activités ont pris une place quand même, ont trouvé leur place dans la structure. Ça a amené aussi à faire soit découvrir d'autres activités, soit découvrir les instances de gouvernance aussi, comme le conseil d'orientation de la structure. Il y a quand même une participation active, enfin... toutes les personnes qui participent, je pense que vous vous sentez écoutées. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là au niveau de la participation démocratique et citoyenne. C'est un point important. Ce projet-là nous permet aussi d'amener tous les gens qui y participent à s'impliquer activement dans la vie de quartier, notamment via les temps forts. Et puis sur tout ce qui est développement social local, en fait, on les associe au maximum. Alors, et puis ils sont aussi force de proposition parfois. Ils nous disent, on devrait faire ça, vous devriez essayer ça, ça, ça. On y râle beaucoup aussi, hein, je le dis. Ils se plaignent beaucoup, hein.
Vous aurez droit de vous
défendre
après, hein.
Non, mais c'est un beau projet, je pense qu'il a toute sa place. C'est bien. Depuis le commencement, on a environ 160 personnes différentes sont passées sur cette action-là, avec quand même un noyau dur d'une soixantaine de personnes qui continuent d'année en année. En fait, ça nous a permis, parce qu'au-delà des activités, il y a une action qui s'appelle Veilleur d'immeubles, où on identifie une personne ressource par immeuble qui nous relate les difficultés chez les personnes âgées qui pourraient habiter cet immeuble-là. Donc, en fait, ça nous a quand même permis de rencontrer des gens qui ne fréquentent pas du tout la structure, d'ailleurs qui la fréquentent toujours pas, mais avec qui on garde un lien privilégié, avec qui on fait le relais, avec les institutions, on se met en interface, en fait. Donc ça, c'est un peu le côté qu'on ne voit pas, mais qui fait partie aussi du projet.
Est-ce que vous voulez bien m'expliquer comment vous avez rejoint ce projet ? Est-ce que vous aviez déjà vos habitudes dans la structure ou non ? Comment c'est arrivé ?
Moi, j'avais l'habitude, je faisais partie d'une activité créative. Et puis, un jour, Laetitia était dans la cuisine. Elle avait des problèmes pour démouler des tartes. Je suis arrivée en deux, trois mouvements, je démoulais des tartes. Laetitia me dit, mais tu voudrais pas venir travailler, donner les cours de cuisine ? Je dis, bon, pourquoi pas ? Puis c'est parti comme ça. Donc,
c'était quand ?
C'était en 2016. Oui, c'est ça, en 2016. Donc à la base, il y avait déjà. Enfin, j'ai remplacé une personne qui n'était plus là, mais cette personne pratiquait différemment de moi. Elle préparait la cuisine et chacun amenait des plats et partait. Et moi, j'ai dit, quand je suis arrivée, moi, je ne vois pas ça comme ça. J'ai dit, on prépare tous ensemble et après, on mange tous ensemble. Donc, puis finalement, tout le monde s'y est pris. Ils attendent le mardi avec impatience. On se retrouve, c'est un moment vraiment privilégié, on papote. Par contre, on ne parle pas de problèmes de santé, comme ça, on parle de tout, mais je dis chez nous, et tout le monde participe, alors donc ils épluchent les légumes, tout ça, et puis après on fait un bon repas, et souvent on invite Laetitia, la direction, donc ils mangent avec nous. Donc, tout le monde repart satisfait, ils attendent le mardi d'après avec impatience.
Ça représente environ combien de personnes chaque mardi ?
15-16 personnes.
Ah oui, quand même.
Oui. Il faut prévoir, donc je fais les courses, je prévois, donc, et puis on cuisine ensemble et c'est très bien comme ça. Je pense que tout le monde est content. Ils attendent le mois de septembre avec impatience.
C'est vous qui préparez les menus ?
Oui. Oui, c'est moi qui prépare les menus. Moi, j'ai mon budget et je fais avec mon budget suivant ce que je vais trouver, parce que je fais plusieurs magasins. Bon, s'il y a des promotions sur tel ou tel produit, donc je cuisine suivant ce que je trouve. Je ne sais jamais d'une semaine à l'autre qu'est-ce que je vais faire. Donc, c'est la surprise tous les mardis.
Donc ça vous occupe une bonne partie de la semaine si à l'opération course
Ah ben oui, moi, enfin le lundi c'est sûr, le lundi il est consacré pour faire les courses et puis après organiser. Non, ça me prend effectivement une journée, mais bon j'ai prévu quelques jours avant j'ai déjà cogité ce que j'allais faire et tout ça, et après il faut que je trouve les produits de façon à, parce qu'on a un budget mais on peut pas non plus s'étendre de trop, donc. Mais j'arrive toujours à faire de bonnes choses avec le budget que j'ai pour 16 personnes. Il y a des fois, on est plus, on se retrouve à 18, mais il y a toujours assez pour tout le monde.
Est-ce que cette activité a pu reprendre depuis la fin du confinement ?
Eh non, non, non,
ouais,
non, non,
c'est un peu
pas.
Compliqué.
Non, puisqu'on ne peut pas se réunir à plus de 4 personnes, je crois, non, non, on ne peut pas. Donc l'activité va reprendre, j'espère, au mois de septembre. Tout le monde attend, parce que tous mes adhérents m'appellent, quand est-ce qu'on reprend, Gigi, tout le monde est impatient, parce que c'était leur jour de détente, le mardi. Le mardi, c'est le jour où ils sont tous contents de se retrouver, donc... Et là, on espère que si tout se passe bien, que le mois de septembre, on puisse reprendre. Puis okay. Moi, ça me manque. Hein.
Ah oui.
Moi, j'ai besoin de venir ici. Alors, pendant la Covid-19, finalement, j'ai créé un atelier fabrication de masques et de blouses. Donc, avec 3 adhérentes, on est à 3, et on a créé, donc, on a fabriqué des masques et des blouses pour le centre.
Vous voulez bien me dire aussi, toutes les deux, comment vous êtes arrivées ici, par quel biais ?
Ben moi, c'est par une dame qui fait du bénévolat ici depuis de nombreuses années. Et puis, comme je suis à la retraite, elle me dit, ben écoute, on va créer une activité senior, pourquoi que tu ne viendrais pas ? Et puis, c'est comme ça que je suis venue, donc je suis venue dans les premiers instants. Et puis voilà, ça me plaît bien.
Donc vous participez aussi à l'atelier cuisine repas.
L'atelier cuisine repas.
Et il y a d'autres choses donc ?
Non, j'ai fait un petit peu d'ordinateur, mais bon, c'est pas très... c'est difficile, alors j'ai abandonné. Mais bon, la cuisine, j'abandonne pas.
Et de votre côté ?
Oui, ben moi je viens à la cuisine parce qu'il n'y a pas longtemps que je suis sur Reims. J'étais dans les Ardennes et Laetitia a contacté la belle-mère de mon fils. Et c'est comme ça qu'on est venus toutes les deux ensemble, qu'on a rejoint la cuisine. Bon, la première fois, j'étais surprise parce que j'ai cru qu'on préparait juste à manger, mais que ça serait pour la maison de quartier. Puis finalement, on m'a dit non, on mange tout le monde ensemble. Alors donc, tout se passe très bien. Et puis moi, en plus de ça, le jeudi, je vais faire de la marche. Et le vendredi matin, on fait de la gym.
Vous voulez bien me dire comment ça se passe, l'atelier marche ? Vous partez d'ici ?
On part d'ici, il y a quelqu'un qui nous emmène et on va dans plusieurs directions. Moi je connaissais un petit peu, mais d'autres personnes ne connaissaient pas. Et puis il y a celui qui nous accompagne, il a fait découvrir. Moi je connaissais parce que comme je viens de la campagne, je connaissais. Il a fait découvrir l'ail d'ours. Les orties pour faire de la soupe ou autre chose, et il y a beaucoup qui apprennent avec ça aussi, qui ne connaissaient pas, et puis voilà.
Vous allez aussi à l'atelier
non.
de marche ?
Je ne suis pas là. On ne peut pas être partout. Non.
Donc vous avez dit la marche, et puis il y a aussi
et
de
la gym.
Et puis la
gym le vendredi matin, oui.
Donc on est sur de la gym douce ?
Douce, oui.
Qu'est-ce qui vous plaît à toutes trois dans le fait de venir ici ? Parce que finalement, il y a plein de façons d'occuper son temps.
Oui. Donc, mais c'est de moment... rencontrer des gens divers. Parce que moi, comme je suis arrivée ici, je ne connaissais personne, que j'ai fait des connaissances, et maintenant, c'est quand même beaucoup mieux.
C'est un club de
c'est
copines.
C'est convivial,
une petite famille, quoi.
Voilà, ça fait oui, effectivement. Bah, on connaît les... On parle des enfants, des petits-enfants, tout ça. Donc, si vous voulez, c'est très convivial. Je crois que c'est ça. Et on a besoin, je pense que tout le monde a besoin un petit peu d'avoir de chaleur humaine. Donc, c'est pareil. Moi, il n'y a pas très longtemps que je suis revenue sur Reims. Moi, j'habitais dans le sud de la France. Mais moi, j'avais besoin de retrouver des activités. J'ai toujours été très active depuis que je suis à la retraite. Donc moi, je vivais à 300 à l'heure. Il fallait que je continue à vivre au moins 150, enfin, c'est plus 300.
J'ai trois dames avec moi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un peu de monsieur dans ces
oui,
groupes seniors?
Oui, il y a
seniors.
Un monsieur.
Oh,
il y a
incroyable.
Un monsieur.
Il y en avait
je pensais
même
qu'il allait
avec
venir.
Pierre.
Oui, Pierre.
Trois. Oui. Oh, vous avez monsieur. Explosé oui. Le quota de toutes les maisons de quartier de Reims.
Je pense. Hein.
Oui, on a. Oui, on ouais.
a il y a Jean-Claude, on a Jean-Claude Pierre et Philippe.
Et Philippe, oui.
Par un moment, on avait Daniel aussi.
Donc on est sur un groupe qui a en tout cas volonté d'être mixte.
Ah oui.
Non, puis ça se passe bien, les matinées, c'est vraiment...
Non, il n'y a pas d'embrouille du tout. Et le jour où il y a quelque chose, moi je suis directe. Je prends la personne, je dis, il y a ça qui ne va pas devant tout le monde. Et bon, ça se solutionne, il n'y a pas de problème.
Donc, vous nous avez dit que pendant le temps de confinement, vous aviez fait des masques et des blouses avec d'autres personnes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se sont mises en place pendant le temps des confinements du côté des groupes qui fait habituellement les ateliers seniors?
De notre côté, non, c'est notre groupe senior où on a fait ça. Mais...
Ne serait-ce que peut-être prendre des nouvelles entre vous? Est-ce que vous avez réussi à garder les liens?
Ah, mais si, moi j'ai gardé les liens avec tout le monde.
Vous avez fait des choses.
Ah oui.
On a des téléphones, et puis quand on va faire les courses ou quoi, on rencontre toujours une personne.
Non, on s'est téléphoné tout le temps. Ah oui, oui. Puis moi j'ai pris des nouvelles de tout le monde.
Claudine, enfin toutes celles qui... Oui, on s'est contactés.
Est-ce qu'il y a des temps forts prévus? Est-ce qu'il y a des gros événements qui arrivent? Des choses que vous avez mis en place ou que vous avez envie de mettre en place?
Ah ben si, on ne pourra pas faire comme l'année dernière. Par exemple, l'année dernière, ça fait deux années dessus, on allait au marché d'Amiens. Donc, marché de Noël à Amiens. Donc, on a fait sortir à Versailles. Tout ça. Mais cette année, on ne sait pas si on va pouvoir faire des choses comme ça. Parce que normalement, on prévoit quand même quelque chose au mois de décembre. Mais là...
Mais il y a parfois des actions qui se déroulent en dehors de la maison de quartier ou qui sortent du cadre de vos ateliers hebdomadaires, alors. C'est des sorties à Amiens ou...
Ah ben oui, mais là, en ce moment, on ne peut plus rien faire. Donc,
à voir.
Oui.
Faut croiser les doigts.
Non, mais je pense que cette année,
on
est allé au marché de Noël de Reims avec les petits-enfants.
On est allé à la prévention, bon c'était un peu moins gay, mais à la prévention cancer pour 65 ans.
C'était bien aussi.
Avec le théâtre forum.
Oui.
Mais en fait, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir au-delà. Bon, il y a un problème de mobilité parfois, on reste vraiment sur des actions de proximité au niveau de la semaine. Mais l'idée, c'est vraiment d'ouvrir sur la ville et sur de profiter quand même de toutes les opportunités... qu'on peut avoir. On essaye de faire deux grosses sorties par an pour justement le côté un peu convivial, un peu hors du commun, parce qu'on est quand même on a Nicole Métier, Gigi qui elle bouge quand même pas mal, mais on a quand même des gens dans le groupe qui ne sortent jamais de Châtillon, qui sont quand même en situation de précarité, on peut le dire.
Oui, tout à fait, c'est
sans
vrai.
Sans aucune discrimination. Et donc c'est vraiment quand même une bouffée d'air frais, quoi, ces actions-là.
Nous, on fait partie des privilégiés, de toute façon.
On leur apporte aussi du soutien.
Oui.
Pense que ça leur fait du bien, quand même.
Il y a de l'entraide. On avait, sur les deux dernières années, alors cette année, avec le Covid, c'est vrai que ça a tout a été un peu chamboulé, un partenariat avec les AD de Cormontreuil. On a accueilli plusieurs personnes, je pense à Delphine, Pierre, plusieurs personnes qui étaient sortant de l'ESAT en fait et qui allaient se retrouver un peu désœuvrées sans aucune activité, et donc on les a accueillis au sein des groupes.
Pour terminer, qu'est-ce que vous aimeriez dire si il y a des messieurs, dames, des châtillons qui nous écoutent, mais qui n'ont jamais osé pousser les portes de la maison de quartier ou qui pensent que c'est pas leur place ou qu'il n'y a rien pour eux?
Venez, vous venez une journée, vous voyez comment ça fonctionne avec nous, si ça vous plaît, ben vous restez.
Si vous savez démouler les tartes, il va vous arriver des trucs incroyables.
Non, mais ils peuvent venir, on les accueille, il n'y a pas de problème.
se passe-t-il dans mon quartier ? Cette série d'émissions va appuyer cette première réponse que je puis vous faire. Il se passe énormément de choses. Le projet Hervy mis en place par l'AFT. Voici notre deuxième sujet. Que d'acronymes. Hervy, cela veut dire en route vers l'insertion. Mais à écouter l'équipe de l'AFT et des personnes qui ont bénéficié de leur soutien, ça a l'air d'être bien plus que ça. Nous les avons rencontrés cet été dans leurs locaux rue Prieur de la Marne.
Sophie Roucourt de Life Team Arts, centre de formation. Je suis directrice adjointe.
Alors, Marina Tessic, je suis formatrice donc, et j'ai référente de l'action RVI.
Alors, Life Team Arts est né en 1992 avec une première activité de formation en 1993. Donc, on a une dimension sur la Marne puisque c'est dans notre nom. Donc, on a 4 sites de formation actuellement. On est Reims, qui est siège social. On a aussi Châlons-en-Champagne, ensuite Épernay et Vitry-le-François. Donc, c'est une association loi 1901. Le cœur de métier un peu de Life Team Arts, c'est d'accompagner les publics qui ont besoin au niveau de l'insertion sociale et professionnelle, avec une dimension plus spécifique par rapport au linguistique. Par rapport aux personnes qui poussent la porte de Life Team, on a différentes personnes, effectivement, bon, des gens qui viennent, qui sont installés des fois durablement en France depuis pas mal d'années, et des gens qui viennent d'arriver aussi récemment en France, qui viennent souvent pour nous demander de leur apprendre à parler français. Donc c'est souvent ça. Alors après, nous maintenant, de manière générale, par rapport aux différents financements que l'AFT a, on ne peut pas accueillir directement les personnes chez nous sans ce qu'on appelle un prescripteur officiel. Donc on a différents partenariats avec le département, avec l'OFI, avec aussi des fois le Pôle emploi, les missions de l'EF, etc., pour qu'ils soient aussi prescripteurs de public. Le projet RVI dont on va parler, ça s'appelle En route vers l'insertion. C'est un projet un petit peu différent où là les publics peuvent s'inscrire directement auprès de nous puisque c'est un financement dans le cadre de la politique de la ville de Reims. Nous, ce qu'on a constaté par rapport au public qu'on accueille, c'est effectivement quand ils arrivent dans leur pays d'origine, les populations souvent sont reçues par l'OFI. Alors que l'OFI, c'est une instance publique qui est en lien avec la préfecture par rapport à la résidence en France et qui, on va dire, accompagne les publics dans leur insertion, on va dire, administrative en France. Et ces publics-là signent le contrat, le CIR, qu'on appelle le contrat d'intégration républicaine. Et dans ce cadre-là, effectivement, les publics, nous surveillés par l'OFI pour venir chez nous avec un volume d'heures qui est variable en fonction de leurs besoins pour leur apprendre le français. Mais on s'est rendu compte aussi par rapport à ces publics et d'autres publics aussi que ces gens-là, des fois, ils avaient leur parcours qui était fait, mais ils n'avaient pas acquis les bases suffisantes pour valider un minimum de compétences langagières. Donc c'est un des constats qu'on a eu, et ce qui fait que ces gens-là, du fait, ils repartent un peu à la maison sans avoir suffisamment de communication en français pour pouvoir être autonomes dans la vie quotidienne. Et ils ne peuvent pas accéder à des niveaux, un niveau dessus parce qu'ils n'ont pas le minimum requis. Et c'est ça un petit peu la base. Et puis aussi des fois des personnes aussi qui sont arrivées depuis très longtemps en France, mais leur situation de vie au quotidien a fait qu'ils ne sont pas beaucoup sortis après leur maison, ou ils s'y sont sortis mais ils n'ont pas forcément communiqué en français, et ce qu'ils avaient appris, ils l'ont perdu aussi. Donc ces publics-là aussi sont aussi la cible du projet RVI aussi. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai appris, il y a quelques années de ça, à parler français, mais j'ai oublié parce que j'ai pas pratiqué la langue, et de fait, on réactive un peu ces connaissances-là, et on les approfondit et on les développe aussi dans le cadre du projet RVI aussi. Ce qu'on peut dire aussi par rapport au projet RVI, c'est qu'on accueille toutes les gens qui habitent sur la collectivité. Ça, on n'en a pas parlé de Reims. Principalement des gens en quartier prioritaire de la ville, effectivement. Mais toutes les gens sont, toutes les populations de Reims, qui correspondent au profil, effectivement, peuvent intégrer le dispositif RVI sans difficulté. On est pratiquement toujours ouvert. On peut se présenter à l'accueil, on peut venir nous rencontrer. On expliquera à la personne si ce projet-là peut lui correspondre sans souci. Elles peuvent s'y adresser à nous. À l'accueil de l'AFT, on pourra la renseigner sans problème.
Alors mon rôle en tant que formatrice, effectivement, donc si je décris brièvement l'action RVI, donc nous travaillons sur le vocabulaire contextuel de la vie de tous les jours, le logement, la santé, l'alimentation, l'école, le travail. Et en transversal, on travaille aussi ce qui correspond à l'émancipation des personnes, ce que disait Madame Roucourt, effectivement, pour leur faire acquérir aussi une certaine autonomie et aussi la confiance en soi. Donc ça, ce sont des choses que nous travaillons ensemble. Nous abordons aussi en parallèle tout ce qui est conjugaison, orthographe, et nous nous centrons beaucoup sur l'expression orale parce que des choses dont ils ont besoin. Par rapport à la phase professionnelle, parce que dans RVI il y a aussi, on travaille l'aspect professionnel, nous travaillons sur le projet professionnel, la technique de recherche d'emploi, la recherche de stage, et le but c'est de donner des outils donc aux personnes pour leur donner ou leur redonner de la confiance en soi face au marché du travail, parce que c'est déjà difficile pour nous, mais ça l'est encore plus pour elles. Donc en parallèle des ateliers communication, il y a un accompagnement sous forme d'entretien individuel qui est mis en place, donc dont l'objectif est de mieux connaître la personne et donc son projet de vie. Et ce qui permet de dessiner donc un parcours le plus adapté possible pour les personnes. Et ce que je voudrais rajouter, pour nous en tant que formateurs, il faut s'adapter à chaque stagiaire, chacun est différent, donc il faut s'adapter à son parcours, à ses attentes, à ses craintes. Et notre travail de formateur nécessite beaucoup d'écoute, beaucoup de patience, et je rajouterais qu'il y a un enrichissement mutuel. Parce qu'on dit toujours, nous, c'est 50-50, on ne peut rien sans nos stagiaires. On évolue aussi en tant que formateur grâce à nos stagiaires. Donc voilà, pour nous, c'est important.
Ce qui est important aussi, si je peux me permettre, c'est aussi, nous, en tant que formateur, enfin en tant que centre de formation, on est là aussi pour lier, faire du lien, créer le lien avec la personne. Et si, dès le début, il faut qu'on arrive à créer ce lien-là. Si on arrive à créer le lien formateur-stagiaire assez facilement, alors on dit stagiaire, mais c'est pas forcément stagiaire, mais bon, entre les personnes en tout cas, on arrive après à améliorer le français. Mais si ce lien-là n'est pas développé au démarrage, on n'arrivera pas à... Il y a une construction de la langue française avec la personne. Il faut qu'elle ait confiance en formateur, confiance en la personne qui l'accompagne, pour pouvoir avancer dans son projet de vie. Et donc aussi au niveau linguistique aussi. Alors si on revient un petit peu sur le parcours, effectivement, quand on rencontre la personne la première fois, on cible un petit peu quels sont ses besoins. Donc il y a deux possibilités. On se dit voilà, c'est un projet de vie et j'en ai besoin pour ma vie quotidienne, ma vie de famille, de parler français. Ou effectivement, je me projette plus tard, dans quelques mois, dans l'insertion professionnelle. Et dans ce cas-là, en fonction de ça, on passe déjà par une étape qui est obligatoire. La première étape, c'est l'accompagnement social ou via du linguistique, pardon. Et après, dans le cadre de cette prestation, cette première étape qui est mise en place, et de l'accompagnement par des entretiens individuels, on définit la personne, on affine un peu plus son projet d'insertion sociale ou professionnelle. Si son projet social qui est défini, dans ce cas-là, nous, on voit avec elle quels sont les besoins dont elle a besoins à identifier, et on l'accompagne vers des personnes ou des structures qui peuvent aussi l'aider encore dans son projet de vie. Ça peut être des problèmes de santé, hein, ça peut être ça. Donc du coup, nous, on voit avec quel est le lien pour qu'elle soit accompagnée par un problème de santé, voire une reconnaissance travailleur handicapé. Ça peut être par rapport à l'éveil de ses enfants, par exemple. Donc le lien avec l'école. Donc nous, on voit aussi comment on peut travailler ça avec elle aussi, par des structures qui peuvent aussi l'accompagner autres. Ça peut être effectivement des projets de formation. Parce que voilà, la personne, elle continue à apprendre le français, par exemple. Donc, il y a une autre étape qui peut se poursuivre derrière par rapport à ça. Ça peut être des projets d'emploi. Dans ce cas-là, on passe à l'étape numéro 2. Ça peut être aussi un projet de famille, voilà. La vie quotidienne, c'est tout à l'heure ce que j'ai dit. Un projet de vie quotidienne. Et dans ce cas-là, c'est le lien avec le monde extérieur. Aller à la maison de quartier aussi, rencontrer d'autres personnes. C'est ça aussi. Vous voyez, donc il y a différentes possibilités. On s'adapte vraiment à la personne et à ce qu'elle veut. C'est ça l'idée du projet RV.
Donc effectivement, après, je veux dire, les personnes s'orientent, bon, elles peuvent continuer vers la formation, vers l'emploi. Donc on continue à les suivre effectivement par la suite. On les recontacte pour refaire un point avec elles, pour savoir où elles en sont. Pour effectivement, on leur dit toujours que de toute façon, on ne les abandonne pas. Même si la formation se termine, il y a toujours une poursuite de contact. Et les personnes, souvent, on les revoit après pour des poursuites de formation.
Bonjour, je m'appelle Fatima, j'ai 28 ans. Je suis inscrite à la formation ERVI à l'AIFT. Et pour moi, la formation, c'était bien. J'ai bien aimé, j'ai bien progressé grâce aux formateurs qui étaient bien avec nous, qui étaient sympas, qui étaient patients. Et mon projet professionnel, c'est la petite enfance animatrice.
Bonjour, je m'appelle Iman Omri, j'ai 24 ans. Je suis à l'AIFT depuis 2 mois, j'ai fait une formation de RV. C'est une formation pour prendre la langue française et en même temps pour découvrir un projet professionnel dans les écoles. J'y prends beaucoup de démos. Et aussi, dans la formation, on a des nouveaux amis parce que je suis en France juste depuis 8 mois. J'ai pas d'amis, mais dans la formation, j'ai beaucoup d'amis.
Franchement, la formation pour moi, c'était vraiment bien et j'ai bien progressé pour la langue parce que moi j'ai déjà un bon niveau, mais j'ai appris des nouveaux choses, des nouveaux. Et voilà, et comme il a dit mon ami, j'ai rencontré avec des gens grâce à la formation et la première partie d'apprendre le français. Je peux faire, par exemple, je peux faire mes démarches toute seule. J'ai appris comment, par exemple, remplir des formulaires, par exemple, des formulaires administratifs. Ça, c'est important pour qu'on vit en France. Et comment remplir, par exemple, comment prendre, par exemple, un rendez-vous avec un médecin. Et c'est quoi la sécurité sociale, c'est quoi la CAF, comment on peut envoyer des courriers à la CAF, à la sécurité sociale aussi.
Cette année était perturbée, comme tout le monde le sait, par le contexte sanitaire, et ce qui fait qu'on devait normalement terminer un petit peu avant le projet RV, ce qui fait que là on finira jusqu'à la fin de l'année 2020. Pour 2021, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, parce que l'année se finissant, le projet s'arrête aussi. Il y a des envies de poursuivre, et c'est vrai que par rapport aussi au public qui est présent, on voit cette nette évolution, et on sait qu'il y a des besoins aussi. Après, il faut qu'on soit accompagné par rapport à ça aussi, au niveau de la politique de la ville.
Il y a toujours des personnes, des partenaires qui ont des demandes aussi pour d'autres, pour une poursuite, effectivement, mais comme disait Madame Roucourt, pour le moment, on n'en sait pas plus, on est dans l'attente, mais en tout cas, c'est vrai que je pense que si l'action peut se poursuivre, eh bien, on aura toujours du public, il y aura toujours des gens qui seront en attente, effectivement, d'apprendre et de progresser en français.
Pour moi, je trouve que la formation RV, il est franchement très bien. Et ça sera bien pour des gens, par exemple des étrangers qui arrivent en France. Ils n'ont pas la langue française. Ils n'ont pas un projet professionnel. Et ça sera bien pour eux de cette formation pour aider à découvrir les métiers, pour faire des stages, pour travailler la langue aussi. Pour moi, je trouve que c'est bien pour eux.
Alors, un témoignage. RV, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai appris de nouveaux mots. J'ai appris des conjugaisons. Les professeurs étaient très gentils et très sympathiques avec moi. C'était calme et enrichissant pour tout le monde. Merci pour tout.
Les concerts de poche, un nom bien poétique. Ateliers musicaux, ateliers de chant. Difficile de croire qu'un tel projet tient dans une poche. En 2020, cela fut évidemment plus difficile de mener à bien cette action. Néanmoins, les concerts de poche se sont rendus dans les maisons de quartier rémoises. et de nombreux bénévoles, chanteurs complètement amateurs, ont pu participer à ce projet qui mêle Vivaldi, violon et bonne humeur.
Dans la séduction. Mm-hmm. Je fais comme si c'était facile et après je rajoute.
Ah d'accord.
On le chantera.
Mm-hmm. Ok. Du coup, c'est pas la première fois que vous faites ce type d'atelier.
Alors moi en fait, je suis venu une fois il y a 9 ans, quand on avait monté l'opéra de Carmen ici, et c'était la première action culturelle avec le public du centre social notamment. On avait monté un chœur de 100-120. Après moi je suis parti à Paris parce que je suis de Paris, faire mes projets à Paris, d'accord. Et je suis revenu l'année dernière. D'accord. Donc j'ai retrouvé des publics avec lesquels j'ai chanté, on a fait un projet avec l'orchestre des concerts de poche. Et donc, je reviens cette fois-ci pour la troisième fois pour faire ce projet avec violon, violoncelle et clavecin chanté. C'est-à-dire que c'est moi, en fait, qui vais monter le chœur, qui vais travailler les chants qu'on a déterminés, donc du Mozart et du Vivaldi notamment. En fait, je suis le chef de chœur du projet. Et puis, à la fin, je vais diriger tout ce beau monde, les musiciens et mes choristes.
Et c'est vous qui avez choisi Vivaldi ?
Pardon ?
Vivaldi, Mozart.
Ah non,
c'est pas moi non plus.
Qu'est-ce qu'on fait, alors, Vivaldi ?
C'est pas moi non plus.
On suit chef.
On aime bien.
Voilà. On suit le chef, c'est super, mais moi, je suis mon chef aussi. C'est-à-dire qu'il y a une programmation au concert de poche qui va jouer du Vivaldi au mois de décembre. Donc, nous, on s'est adapté à la programmation. Et on va chanter en levée de rideau de ce concert accompagné par les musiciens professionnels. Voilà pourquoi on chante du Vivaldi.
Eh ben, la pression, mesdames. Hein
voilà.
Oui, alors je suis Armelle Bigot, je suis chargée d'action culturelle au concert de poche. Je suis nouvelle arrivante. Je suis arrivée juste avant le confinement, j'ai eu 15 jours de terrain et puis après on était confinés. Donc là en fait depuis le mois de septembre je découvre vraiment le terrain des concerts de poche et je renoue enfin avec les publics, avec les territoires et ça fait un bien fou. Donc du coup moi je m'occupe de la région Grand Est, notre antenne elle est basée à Reims. On est deux sur l'antenne, Noémie Ayotte et moi. Et puis en plus moi j'ai la référence de l'Aisne, référence territoriale de l'Aisne en plus du Grand Est. Mais là aujourd'hui, je vais plutôt parler des projets de Reims, qui se passent à Reims. Donc là aujourd'hui, on est à la maison de quartier des Châtillons. On est avec un groupe de participants qu'on appelle nous tout public. Ce sont des habitants du quartier. Là, il y a une vingtaine de personnes qui est en train de répéter avec Benjamin Vinit, notre chef de chœur permanent qui vient de Paris. La plupart du temps, on travaille avec des artistes locaux, des intervenants locaux. Mais là, il se trouve que c'est un chef de chœur parisien qui a déjà travaillé avec les participants l'année dernière. Donc ce qui était agréable à voir, c'était leur retrouvaille il y a 15 jours. Aujourd'hui, c'est la troisième séance. Donc ils étaient vraiment heureux de se retrouver, surtout après le confinement. Où, voilà, c'était un petit peu dur pour tout le monde. Ça faisait plaisir de refaire de la musique, d'être ensemble déjà, même masqué, mais d'être ensemble et puis de vibrer ensemble, d'avoir des émotions ensemble. Donc là, ils ont commencé un programme. Ils sont en train de faire un petit Mozart là tout de suite. Et puis ils vont attaquer un programme baroque. Le baroque en France, c'est à peu près 1600-1750. Et ce travail qu'on est en train de faire là, à la maison de quartier Châtillon, en fait, il va aboutir au mois de décembre, puisqu'on est engagé sur un projet qu'on appelle longue durée, sur plusieurs mois. Donc du 8 septembre jusqu'au 15 décembre, ces participants vont travailler des morceaux, deux ou trois morceaux. et ils vont avoir la chance de les restituer sur scène à la maison de quartier des Châtillons. C'est ici qu'on va faire notre concert. Et c'est pas tout, puisque nous programmons un ensemble qui s'appelle Les Folies Françaises. Ça s'écrit Les Folies Françoises, mais ça se dit Les Folies Françaises. Mmh. Et cet ensemble qui existe depuis plusieurs années est un des meilleurs ensembles baroques en France. Donc ils vont venir faire leur concert le 11 décembre à la maison de quartier des Châtillons à 20h. Et nous, les participants, nous allons monter sur scène avec eux pour faire la première partie qu'on appelle le lever de rideau. Donc ils nous accompagneront dans nos morceaux et ils auront la chance aussi de nous accompagner. Donc ça sera un bel échange musical et humain, normalement. Donc c'est pour ça qu'on travaille toutes les semaines, mardi après mardi, pour pouvoir faire ça.
D'accord ? L'idée étant qu'à la fin de chaque séance, vous puissiez réécouter le motif qu'on a appris pendant cette séance. À vous de décider, mes cours sont publics. Si vous voulez enregistrer tout le cours et repartir à la maison avec, vous pouvez. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est quand on a fait une séance, si vous, à la maison, vous le refixez, moi, ça me permet de continuer mon travail. On va tous se mettre au bout de notre chaise, pieds collés au sol. Vous allez tous me mettre cette tête-là, c'est-à-dire l'air illuminé, les pommettes qui montent, les yeux vers le ciel, pour me chanter à vous.
Donc sur ce projet de Châtillon, on a trois groupes. On a une classe, CM1, CM2 de l'école Moun-Tixier, qui est juste à côté, qu'on a vu ce matin, qui avance très très bien aussi. On a un groupe de la mission locale, des 16-25 ans, qui ont déjà fait ce projet l'an dernier. Il y avait une belle mobilisation. On avait été vraiment ravis de les avoir avec nous. Donc ces trois groupes-là vont cheminer parallèlement, vont faire leur travail parallèlement avec Benjamin, le mardi, toute la journée du mardi. Et on se retrouvera de temps en temps pour faire des répétitions communes, parce que quand même, on chantera sur scène ensemble. Donc
ben oui,
il faut mieux s'entendre à un moment donné et s'écouter. Donc voilà, et le programme sera du Vivaldi. Là, Benjamin est en train de faire un petit Mozart qui n'est pas l'époque baroque, mais là, c'est une petite exception. Et puis, on va faire aussi une création. Les participants ne vont pas avoir que des ateliers de chant choral, ils vont avoir des ateliers d'écriture qu'on va commencer dès le 1er octobre. Donc, en fait, ils vont écrire leurs chansons, ils vont écrire le texte et la musique par rapport à leur inspiration, leur ressenti du moment. Il y a une parolière qui va venir les aider à ça, et puis un pianiste improvisateur. Et sur trois séances, ils vont monter leur texte et leur musique. Et cette création-là sera arrangée par un de nos arrangeurs des concerts de poche, mis en forme, on va dire. Mm-hmm. Et puis Benjamin, le chef de chœur, va nous l'apprendre ensuite. Ce sera notre création, mais il y a besoin quand même de l'apprendre, de l'interpréter, de mettre des nuances, de l'émotion, de la musicalité et tout ça. Donc ce sera un de nos morceaux qu'on chantera et qui, encore une fois, sera accompagné par les Folies Françaises.
Artiste, la date des chances, ne jugeons pas nos bravos.
Si vous voulez vous amuser, vous me jetez le nœud, juchon, nœud et jus. Regardez bien.
Alors les concerts de poche, en fait, c'est une association nationale. On travaille un petit peu partout en France. On a un siège social qui est en Seine-et-Marne. C'est de là qu'a commencé vraiment le projet, à Féricy exactement. Ce projet, il est porté par Gisèle Magnan, qui est une concertiste, une pianiste concertiste, qui a eu envie de donner des concerts de manière autre, de faire autrement que d'habitude. Donc cette idée est née il y a 15 ans. Et ça fait 15 ans qu'on grandit, qu'on évolue. Et du coup, on a des antennes à Lille, à Cornas, dans le sud de la France, en région parisienne bien sûr, et puis à Reims. Reims, c'est depuis quelques années. Là, on a des nouvelles antennes depuis un an à Cornas. Et Toulouse, ce sont deux nouvelles antennes depuis un an. Et donc notre travail, c'est vraiment d'aller sur les territoires, au plus près des habitants, et de créer du sur-mesure avec les partenaires, pour leur territoire, leurs habitants. Donc vraiment, notre objet, c'est d'emmener les plus grands artistes du classique, du jazz et du lyrique au plus près des habitants. Donc on va souvent salle des fêtes, MJC, maison de quartier, EHPAD, enfin vraiment là où sont les gens et là où ils n'ont pas forcément l'habitude d'écouter ce genre de concert classique, on va au plus près d'eux pour vraiment créer du lien social. Notre projet n'est pas qu'un projet musical ou artistique, c'est aussi beaucoup beaucoup un projet un projet social, un projet humain en fait, puisque nos trois missions, elles sont artistiques, territoriales et sociales. En fait, les gens qui viennent chanter avec nous n'ont pas besoin du tout d'avoir des prérequis musicaux. Ils viennent, j'ai envie de dire, venez comme vous êtes, c'est déjà un slogan qui existe, mais c'est vraiment, vous avez envie de chanter, vous avez envie de rencontrer des gens, vous êtes curieux, venez. Et tout le monde chante un peu sous sa douche ou essaye, donc du coup, il n'y a pas de... On n'a pas du tout besoin de notions musicales, de notions solfégiques. On a juste besoin de l'envie, de la curiosité, d'avoir les oreilles ouvertes et de se mêler à tout ça et de prendre plaisir au projet humain et musical qu'on est en train de créer. Notre objectif premier, c'est vraiment le travail de fond, ce qui se passe semaine après semaine, et humainement et musicalement. Ça, c'est vraiment le plus important. Mm-hmm. C'est d'emmener les gens d'un point A à un point B et qu'ils avancent avec plaisir dans ce projet. Après, évidemment, la cerise sur le gâteau, ben, c'est la restitution, d'être accompagné par des artistes assez incroyables quand même, qui d'habitude sont plus en concert à Tokyo, à Vienne, à New York. Donc, ben, qu'ils soient là... à la maison de quartier des Châtillons, par exemple, ben voilà, ça apporte quelque chose de plus. Donc ça, c'est vraiment très satisfaisant, c'est très valorisant pour tout le monde, y compris pour les artistes. Les artistes, ça leur apporte une fraîcheur aussi, un renouveau. Ils jouent pas forcément de la même manière. Ils peuvent parfois jouer mieux que dans des très grandes salles, parce que peut-être ils ont moins de pression, ou peut-être que des fois, ils s'en font plus aussi. On a aussi l'effet inverse, où tout d'un coup, il y a un track pas possible. Du coup, c'est intéressant à observer. Et puis surtout, ce qui nous plaît, nous, au Concert de Poche, c'est que ça apporte à chacun. Évidemment à nous, les Concerts de Poche, nous, toute l'équipe, mais surtout aux habitants, aux artistes, enfin tous les gens avec qui on va travailler, les partenaires, évidemment, tous ces gens-là apportent beaucoup au projet et reçoivent, je pense, aussi beaucoup. Et c'est ça qui compte.
Se passe-t-il dans mon quartier, épisode 3, c'est déjà terminé. L'épisode 4 est pour bientôt sur les ondes de Radio Primitive. De quoi sera-t-il question ? De cirque, de potager et... Mais laissez-vous surprendre.